Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, condamné, victime, un dialogue possible, une série de Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a la question du pardon et le vide qui s'ouvre après un procès. Ce moment où l'on se demande comment vivre après, avec les idées noires, la peur, l'incompréhension et les questions sans réponse. Il y a aussi l'espoir de trouver une piste pour aller au-delà de la logique punitive, cette idée de réparer les torts et de renouer avec des pratiques de compensation, des rituels, voire même le souvenir de Saint-Louis sous son chêne. Mais après les idéaux, il y a le réel, le crime, la douleur, la terreur et l'impulsion qui soudain a laissé la place à des actes qui nous dépassent, à cette inconcevable irruption de la violence qui pourtant fait partie de la vie. Comme en fait partie le désir de se venger, et tout ça forcément n'incite pas à se parler. Alors pour commencer, les personnages. Un ancien directeur de prison, une militante aux côtés des victimes, des croyants pratiquants, une conseillère de probation qui cherche des portes, deux criminologues, une communicante qui a du pain sur la planche, un coupable qui s'est rendu et une victime qui tâtonne. Ensuite le décor. Des hauts murs et des portes closes, le souvenir des mains de l'assassin, le ministère de Badinter et celui de Taubira, la peur de la récidive, des traumatismes, des face-à-face improbables, des familles criminelles, le viol et la certitude d'être impardonnable. Aujourd'hui, premier épisode, il y a des choses qu'on aimerait oublier.
Une histoire de la justice restaurative par Johanna Bedeau et Angélique Thibault. Pierre, vous êtes à la centrale de Poissy depuis combien de temps, vous ?
Le 16 janvier 2003. Fleury et Fresnes en maison d'arrêt et aussi à Saint-Maur aussi un temps.
Et vous avez une idée de pour combien de temps vous allez être là encore ?
Je sais pas, j'ai pris perpétuité. Ça, on ne sait pas.
On ne sait pas.
On n'y pense plus trop. Enfin, on n'y pense pas de la même façon que les autres personnes, même que les autres détenus. Tant qu'on a à peu près perpète, on ne sait pas ce que c'est.
Vous êtes rentré. Vous aviez quel âge quand vous êtes rentré ?
23 ans. On m'avait même dit que j'ai eu la chance que c'était un avantage de tomber jeune, parce que bon, quand vous êtes jeune, vous êtes un peu foufou, parce que bon, il y a le temps de passer vos nerfs sur pas mal de choses avant de réaliser dans quel... Alors que c'est vrai que pour des gens qui tombent à 30, 40 ans, 50 ans, c'est pas la même chose que d'encaisser l'incarcération, parce que peut-être vous êtes un peu plus conscient, un peu plus lucide.
Vous avez quel âge là ?
43.
Comment vous avez découvert, Pierre, les rencontres détenues victimes ?
C'est ma CIP de l'époque qui m'a proposé d'y participer. Puis bon, je savais que ça allait être des rencontres avec des victimes et que bon, on allait pouvoir échanger. Je me souviens surtout du rôle qu'elle a joué quand après il fallait faire cesse de décompression après les sessions, parce que bon, vous écoutez les gens raconter de leur côté comment eux ils l'ont vécu, et forcément quand vous retournez après, faites presque un saut dans le temps. Sur le plan émotionnel, vous retournez à votre actualité alors que vous étiez quelques instants dans le passé, donc forcément vous replongez. Donc, je suis parti pour, quoi. Moi, les premières fois où j'ai entendu parler, pas de justice restaurative, mais de gens qui voulaient rencontrer, j'ai vu une émission où il y avait c'était une mère d'une victime de Guy Georges. Et je voyais, elle m'avait vraiment saisi parce que je voyais que les gens la comprenaient pas du tout, parce que elle savait que ses mains étaient les dernières à avoir touché sa fille, et elle voulait toucher ses mains. Et elle voulait, elle a même écrit, je crois, au directeur de Moulin à l'époque pour le voir, et ça a été refusé. Je crois que les gens ne comprenaient pas du tout.
Quand vous êtes arrivé à la centrale de Poissy, est-ce que vous avez commencé directement un travail thérapeutique?
Comment ouais, si, je l'avais commencé dès le début de ma peine. Dès que je suis arrivé, je suis tombé en 98. Ouais, j'ai dessus eu un suivi avec un psy. Parce que bon, le premier soir, j'avais essayé de me suicider. Donc bon, on m'avait prescrit des psychotropes que j'ai refusé de prendre. Quand on commence aussi fort, ouais, vaut mieux faire un suivi psy. Donc parler, ouais, ça, c'était une nécessité.
Et du coup, vous aviez déjà travaillé, vous n'étiez pas dans le déni de ce que vous aviez fait, j'imagine.
Non, je me suis rendu donc à la police. Donc non. Mon principal problème, c'est que j'avais un besoin de reconnaissance ou d'être écouté de la part des victimes, ce qui n'avait pas été possible pour plein de raisons lors du procès, parce que les victimes, ils n'ont pas envie de vous écouter. Ils doivent avoir envie de plein de choses sauf de vous écouter. Donc, c'était... J'étais... triste pour plein de choses, mais l'une d'entre elles, c'est que je pensais pouvoir faire partager ma tristesse, alors que bon, jamais je serais de l'autre côté. Même si je connaissais la personne que j'ai tuée, je suis exclu de ce groupe, de cette communauté des gens qui la connaissaient et qui l'aimaient.
Et alors, c'était il y a combien de temps que vous avez participé aux rencontres?
Alors là, je me suis
en 2010 pas,
je crois que c'était le premier groupe. Hein, c'était le premier groupe.
En 2010.
Je me souviens juste que quand on est arrivé, j'ai vu des mamies, et puis on leur a dit bonjour, on a serré la main, puis bon, après il y avait les deux personnes qui étaient censées un peu co-diriger ça, et puis il y avait Monsieur Carillo. Et
je me suis senti,
je crois, une avocate.
Réconforté, dans le fond.
Une professionnelle.
Dans cette idée que rien n'est définitif.
Et puis il y avait...
tout le monde peut évoluer. Tout le monde doit avoir sa chance.
Qui j'allais...
Mais à la condition de l'impliquer directement et pas de faire à sa place.
Vous voyez les choses de l'autre côté, comme... Il vous raconte ce que ça fait d'ouvrir votre porte et de voir des policiers ou des gendarmes qui vont vous demander de vous asseoir ou quand ben, ils repartent et puis que vous retrouvez comme ça. Voilà. Et sans savoir quoi faire, sans savoir ce qui se passe, avoir le ciel qui tombe sur la tête et puis... il y avait les questions qui se posaient sur... Je me souviens surtout de deux, une qui était axée beaucoup sur pourquoi c'était tombé sur eux, et puis une autre personne sur le fait que, parce qu'il y a eu un non-lieu, le fait qu'il n'y ait pas eu la reconnaissance de l'institution. Et le problème, c'est que les questions avec un pourquoi, à vrai dire, elles n'ont pas de réponse en soi, parce que c'est un peu compliqué à dire. C'est même la structure même de notre langage fait que c'est des réponses intransitives. Alors, c'est pour les gens, quand on était petit, on faisait un point avec des ensembles et puis des traits, et puis vous vous rendez compte qu'il y a un moment où vous pouvez faire... l'infinité de traits pour relier tous les points, et que c'est une activité qui s'arrête pas. C'est comme diviser, comme la flèche qui est toujours à la moitié de la distance. En fin de compte, vous pouvez toujours le faire. Moi, je peux expliquer ce que j'ai fait, parce que dans une certaine mesure, j'ai fait des choix de vie, c'est-à-dire des choix de fréquentation, des choix de type d'action, et que je ne parle pas du tout de destin, hein. Regarde, si c'est destin, c'est destin comportemental. Comme je faisais les choses, comme j'étais orienté, j'allais forcément faire quelque chose de grave. Mais bon, dire à la personne qu'il n'y a pas de réponse à cette question-là et que bon, que c'est même pas accepter l'inacceptable, mais c'est se dire que c'est tombé.
De belles personnes.
C'est complet au deuxième, complet.
De personnes en souffrance, mais qui, ayant pu échanger, au moins pour ces six personnes-là, se sont retrouvées en humanité.
C'est vrai que c'était deux mondes différents qui auraient pu s'entrechoquer.
Notre
aussi,
société...
C'était d'un côté les détenus et d'un côté les
victimes. Vit le conflit comme étant une posture consubstantielle de la relation intersubjective. Et parfois, certains pensent que du conflit va naître une amélioration. Mais dans les premiers temps de l'histoire, il n'y avait ni tribunaux, ni magistrats, aucun professionnel de la chaîne pénale comme on les connaît aujourd'hui.
Robert Cario.
Et ce que la justice restaurative offre, en plus et en complémentarité à la réponse pénale, c'est un espace de parole. Un espace où les uns et les autres, auteurs et victimes, ayant posé ou subi des actes similaires, un espace de parole au sein duquel ils vont enfin pouvoir poser les questions du pourquoi moi, pourquoi lui, du comment je vais réintégrer ma famille, réintégrer ma communauté, réintégrer ma vie, brisé par le fait infractionnel.
La justice pénale ne répond pas aux victimes, elle répond à la société. Quand on commet un crime, évidemment qu'on commet un crime sur une personne.
Catherine Rossi.
La forme inquisitoire du procès, actuellement, fait que c'est la société qui accuse. C'est la société qui poursuit. C'est nous. C'est nous qui créons l'interdit pénal et c'est nous qui le jugeons par la parole d'un juge. Et toutes les victimes, si vous voulez, sont un peu traitées sur le même pied d'égalité. Le meurtre vaut le même prix. Que la victime soit un enfant, un adulte, une personne vulnérable ou au contraire quelqu'un qui est un peu plus rejeté de la société. C'est ça qui fait que notre justice est juste, mais c'est exactement ça qui fait que les personnes la trouvent injuste. Parce que quand vous réparez un crime à la collectivité, vous ne réparez pas l'équivalent à la personne qui a été touchée.
Je dirais que c'est... une philosophie en ce sens que, jusqu'à présent, la prise en compte du crime porte sur les conséquences du crime. À savoir que, et ça n'est pas à remettre en question, le juge pénal doit être le seul compétent pour traiter de la sanction de l'auteur et de l'indemnisation de la victime. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que ça n'était pas suffisant. Il manque à la réponse strictement pénale, une réponse en équité qui porte sur les répercussions du crime. Et c'est l'intérêt de la justice restaurative, en s'inscrivant dans la complémentarité avec la réponse pénale sur les conséquences, d'introduire des mesures qui vont offrir en équité un plein épanouissement à l'œuvre de justice.
Donc vous avez des victimes de crimes souvent absolument dramatiques, imaginons des violences conjugales, imaginons une agression sexuelle, un viol, imaginons le meurtre d'un enfant. Vous faites ça à la victime ou à ses proches, et au moment où ça se passe, vous lui dites « Ok, mettez-vous là, attendez, on va s'en occuper ». On met l'auteur en prison et voilà madame, on vous envoie un petit chèque en guise de réparation, mais vous n'avez pas le droit de vous venger, ça c'est interdit. La violence symbolique que vous avez subie, personne ne vous en parle. Vous n'avez vous avez de la place dans le procès pour faire valoir vos droits, pas pour dire ce que vous en pensez ou ce que vous avez vécu ou comment votre famille est brisée maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire pour rétablir un peu de paix chez vous, pour essayer de vous en remettre, de reprendre une vie, si seulement c'est possible. Et tout ça, on vous laisse sur le carreau avec tout ça à gérer et on vous dit, si ça va vraiment pas, allez donc voir un psychologue. Donc il en manque un gros morceau. Il en manque un gros morceau que Marcel Hénaff a appelé la vengeance symbolique, le besoin de réhabilitation symbolique, le retour de la dette d'honneur. Donc si vous voulez, la justice pénale criminelle, c'est la justice de l'État. La justice réparatrice, c'est la justice des gens.
Ça veut dire que la justice restaurative, en tant que programme, au-delà d'être une philosophie, en tant que programme, promeut des mesures qui vont permettre à chacun d'apprivoiser. D'autres parleront d'empowerment ou d'appropriation, d'apprivoiser le dispositif, d'en être responsable, sans jugement à l'intérieur, en venant pour soi-même, et un peu pour les autres, mais d'abord pour soi-même, dans cet espace sécurisé par la présence d'un tiers professionnel, l'animateur, selon les mesures, de rencontres détenus-victimes en établissement pénitentiaire, rencontres condamnées-victimes en milieu ouvert, de médiation directe, en face à face, restaurative, entre l'auteur et la victime de la même affaire, de conférences restauratives, tout cela ayant une origine véritablement ancestrale, qu'on a redécouverte il y a une cinquantaine d'années. Tout ne s'est pas déroulé par une justice, entre guillemets, tribale, définitivement vindicative et éliminatrice, mais par une justice de régulation. La palabre, c'est de la justice restaurative. Il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de magistrat. Elle était familiale, elle était tribale, clanique, elle a connu des tas d'évolutions au fur et à mesure que nos sociétés ont grandi. Et petit à petit, l'accaparement par le politique, au tournant du premier millénaire, dans un souci de domination politique, plutôt que d'épanouissement de la justice, a conduit à priver les personnes de cette régulation des conflits, et cette privation a été définitivement dommageable, sans doute dans notre pays, mais plus encore dans les pays que nous avons colonisés. Et je crois que cette remarque est essentielle, parce que nous avons sans aucun doute, j'ose espérer en croyant bien faire, mais derrière ce croire bien faire, bien évidemment je pense aussi au souci qu'avaient ceux qui colonisaient d'accaparer des richesses plutôt que d'épanouir les individus, cette confiscation de leur justice coutumière a provoqué effectivement une perte définitive de leur valeur ancestrale.
C'est un ensemble de mots, deux mots qu'on utilise dans des endroits où on a besoin de penser au-delà de ce qu'on est en train de faire.
Restorative justice a été traduit par nos amis québécois qui ont opté pour réparatrice.
On voit des expériences locales.
Les collègues belges pour restauratrice.
On pourrait raconter l'histoire en plein de...
Certains collègues, je pense, auraient été Antonio Beristain, parlait de justice créatrice. On trouve aussi ailleurs transformatrice, etc., etc.
Il y a... tout ce qu'on a tenté de bricoler dans des continents qui ont à gérer une population indigène.
Nous avons choisi justice restaurative.
Population indigène, je pense à l'Australie notamment. Population indigène qui, du fait de politique sociale, du fait de ses conditions d'existence, finit par fréquenter beaucoup la prison.
Sandrine Lefranc.
On est dans des univers, dans des pays qui ont besoin d'expliquer qu'ils traitent très convenablement ces populations. Ces populations ont un sort carcéral différent de la population ordinaire. Et donc on est allé chercher des traditions, des jurisprudences, des philosophies, des théories de la justice inspirées par ces pratiques aborigènes ou indigènes. Donc on a essayé dans ces pays-là de construire une forme de justice qui dise s'inspirer des pratiques de ceux-là même pour lesquels on tentait de bricoler, d'inventer un traitement judiciaire adéquat.
Et restaurar en vieux français, ça veut dire guérir. Mais c'est pas la guérison au sens médical du terme, c'est le terme healing qui participe de la, finalement, restauration.
ailleurs, et là encore de manière assez aléatoire. Je pense à un petit village de l'Ontario dans les années 70. Ailleurs, à un moment, deux jeunes hommes cassent des voitures parce qu'ils ont trop bu. Un agent de probation doit gérer le dossier et se dit il serait quand même de bon sens de permettre à ces jeunes hommes, plutôt que de les envoyer en prison, d'essayer de tenter par eux-mêmes de réparer les conséquences de leurs actes, et notamment d'aller à la rencontre des populations. Pour moi, c'est du bon sens. Que les délinquants tentent d'assumer par eux-mêmes leurs responsabilités, ça n'est pas une philosophie, c'est du bon sens. Dans ce cas-là, ça pourrait n'être que du bon sens, sauf qu'on sait que l'agent de probation, ça n'est pas juste un agent de probation, c'est aussi quelqu'un qui a une expérience religieuse particulière. En l'occurrence, il est ménonite. On pourrait parler de secte, mais il ne faudrait pas voir ça comme de vilains sectaires. C'est un petit groupe religieux très particulier qui est pacifiste, anabaptiste, c'est-à-dire qu'on baptise les adultes et pas les enfants, et qu'on a un rapport à la religion qui est un rapport total. Par exemple, on refuse dans cette tradition ménonite le rapport aux politiques. Ils ont été confrontés à une histoire américaine qui les forçait à faire leur service militaire. Ils sont pacifistes. Ils ont bricolé, pour justifier leur refus de faire leur service militaire, des expériences de justice alternatives. Ils ont obtenu de faire des formes de service civique plutôt que d'aller faire la guerre. Ces formes de service civique, ils les ont faites dans les prisons, dans des hôpitaux ou en gérant les relations ethno-raciales dans des villes américaines qui connaissaient des problèmes lourds de ce point de vue. Et donc, ils ont inventé des modèles de justice à partir de là. Il y a un fil directeur permanent, c'est qu'on sort du rapport à l'institution. Et c'est aussi l'enjeu quand on en parle en France, c'est-à-dire qu'on cherche à penser la justice autrement que comme un rapport à l'État. La victime n'est pas que le témoin d'un procès devant le magistrat de l'État. Le délinquant n'est pas seulement la personne qu'on va juger au nom de la loi et qui va être jugée par l'État. On cherche à rétablir une relation triangulaire, on cherche notamment à rétablir la relation entre le délinquant, la victime et leur monde social tout entier, ce qu'ils appellent dans ces mondes anglo-saxons la communauté.
Qui contribue à son développement, la justice restaurative? On parle toujours de Howard Zerr.
Howard Zerr, oui, alors c'est des figures un peu particulières. Howard Zerr, c'est celui qui a fait beaucoup pour donner à la justice restaurative à la fois une portée politique, une portée d'expérience, de réforme de la justice pénale aux États-Unis, et dans le même temps un principe que les universitaires ne délaissent pas. C'est d'ailleurs assez fascinant, hein. C'est à chaque fois des figures d'hommes qui sont des figures de religieux, Zerr en est. Ce sont des hommes qui veulent agir dans la cité, ce sont des hommes qui vont notamment proposer une expertise aux États fédérés, à l'État fédéral ou à des institutions pénitentiaires pour tenter ces expériences-là. Donc ils sont religieux, ils agissent dans le monde social qui est le vôtre et le mien, et dans le même temps ce sont des universitaires.
Elle existe, la justice réparatrice, il y en a partout, on ne s'en rend pas compte. C'est exactement ça que nos curés, nos notaires ou nos maires ou nos professeurs d'école d'antan faisaient. Ce qui est nouveau, ce n'est pas la justice réparatrice. Ce qui est nouveau, c'est que nos curés ont disparu, ou en tout cas dans leur rôle reconnu socialement d'autrefois, que nos notaires ne font plus ce travail-là non plus parce qu'ils ne peuvent plus le faire, que les enseignants n'ont plus le droit de faire de ce qu'on appelle de la régulation du conflit, on n'a plus le droit de punir, on ne peut plus exercer ces modes de régulation d'autrefois. Donc on essaie de réinventer ces pratiques, donc de les conserver, mais de les faire jouer par d'autres acteurs.
La justice laisse un petit peu les gens au début du guet. Et ça, c'est mon sentiment d'avocat. Et les aide pas, finalement, à progresser et à traverser ce guet pour reprendre le chemin de leur vie.
Ce qui est nouveau, c'est l'arrimage qu'on tente de faire depuis le début des années 2000 avec nos institutions officielles.
C'est un peu la même démarche que l'on a fait lorsqu'on a développé la médiation familiale. On avait l'impression qu'une fois le divorce prononcé, on se préoccupait plus de ce qui se passait ensuite. Et là, vraiment, le fait de travailler sur les répercussions sur la personne, des actes qui ont été commis, je me dis que ça permet aux personnes de reprendre le chemin de leur vie.
Est-ce que c'est à l'arrivée de Robert Badinter que les choses commencent déjà à bouger au ministère de la Justice?
Absolument, parce qu'il a fait le constat que nous faisons tous en tant qu'avocats, c'est que la parole de la victime n'existait pas du tout à l'époque. Donc c'est vrai que Robert Badinter a eu deux combats quand il est arrivé, l'abolition de la peine de mort d'une part et la place donnée à la victime d'autre part. Tout de suite, très rapidement, donc dès 82, eh bien, on a commencé à parler des associations d'aide aux victimes parce que On s'est rendu compte que l'État ne pouvait pas, n'avait pas les moyens peut-être de remplir ce rôle. Donc dès 83, on a lancé les premières associations un peu partout en France, à Rouen, à Strasbourg, et ça s'est multiplié. Et quelques années plus tard, eh bien, on a créé la fédération INAVEM France Victimes.
Michel de Kharkov, à ce moment-là, qu'est-ce que ça déclenche chez vous comme envie ? Vous vous dites au sein du ministère, il faut essayer de convaincre, il faut que les choses avancent.
Ben écoutez, ça a été assez facile, si je peux dire, puisque je suis devenue présidente de France Victimes assez peu de temps après cette première expérience. Et j'étais tellement convaincue de la nécessité de faire connaître cela que je ne dirais pas que j'ai harcelé Madame Taubira, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire qu'à chacune de nos réunions, et heureusement Madame Taubira a été très sensible à la question, mais à chacune de nos réunions, je martelais justice restaurative, il faut mettre ça en place, etc. À tel point qu'un jour, elle m'a appelé en me disant, bon, on va à Québec si vous voulez, je veux en savoir plus. Et donc, on était en mars 2014, et donc la loi est d'août 2014. Donc, vous voyez que les choses sont allées relativement vite, parce que j'avais en face de moi aussi une personne qui a été vraiment convaincue de la nécessité de faire connaître ça. On avait eu aussi, entre-temps, la directive européenne en octobre 2012 qui parlait effectivement du développement des mesures de justice réparatrice. Donc de toute façon, il fallait qu'on transpose dans le droit français. Mais ça a été transposé bien avant la date limite qui nous avait été fixée au niveau de la transposition.
Dans un premier temps, de tenter une conciliation. D'ailleurs, je crois que c'est obligatoire maintenant pour toutes les procédures civiles. Donc, de contacter...
Oui, allez-y. Alors, au début, non, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et avant d'entendre parler de justice restaurative, c'était d'abord la question des victimes et de la prise en compte des victimes par l'administration pénitentiaire. C'est que dans un deuxième temps que je vais entendre parler de justice restaurative. Et là, je vais, comme ne comprenant pas bien l'énoncé, je vais tout de suite aller voir sur Internet pour voir ce que c'est, quoi.
There are lots of different practices we call restorative justice. But essentially, it's a framework. It's a particular way of looking at wrongdoing.
Non, ça démarre sur une invitation d'un colloque de l'INAVEM.
François Guth.
C'est dans les Yvelines. J'étais en poste dans les Yvelines. J'étais directeur d'un service départemental d'insertion et de probation. Et donc, on me propose d'intervenir sur une thématique. Et le sujet, c'est quelle prise en compte par l'administration pénitentiaire des victimes. Donc, ouais, je me sens concerné effectivement par les missions qui me sont confiées par la loi. La mission affectée à l'administration pénitentiaire par la loi, c'est la prévention de la récidive. La garde et la prévention de la récidive. Et au-delà de ça, humainement, on se dit, ces personnes vont revenir au sein de la société. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif, quelles démarches on fait auprès de ces personnes pour leur donner des outils pour se construire autre chose. Alors je participe à ce colloque, j'anime ma petite table ronde sur le sujet, donc je me suis un peu évidemment creusé pour développer quand même quelques idées, mais ça a surtout été pour moi l'occasion de découvrir finalement l'intervention d'un Canadien qui est invité lui aussi. Alors lui me parle de justice restaurative, il me parle donc des rencontres détenues victimes, mais également des cercles de soutien et de responsabilité, qui est un autre outil de la justice restaurative. Donc lui il présente un outil formidable, qui concerne autant les auteurs que les victimes. Donc c'est très équilibré comme approche. Moi, de mon côté, professionnel de l'administration pénitentiaire, quand j'apprends que j'ai des anciens pensionnaires qui récidivent, ça m'interpelle de la même façon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on a manqué chez la personne pour qu'elle récidive ?
On n'imaginait pas que ça allait arriver dans la loi, moins de 10 ans après, mais on était déjà là, tous, à notre place, que ce soit François Goetz, au service pénitentiaire des Yvelines, la présidente Michel de Kharkov qui était déjà là au sein de France Victimes, enfin quand ça s'appelait INAVEM.
Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à participer aux premières rencontres détenues victimes qui se sont déroulées à la centrale de Poissy en 2010.
On est tous en fait un maillon de cette construction de la justice restaurative en France. Olivia Mons, je suis responsable de la communication à France Victimes. Avec aussi beaucoup de... Parce que ça, il faut le dire, c'est que la justice restaurative en France, elle a été construite aussi avec des gens du Québec, puisque la première rencontre détenue victime au Québec date de 89. Et on a ce recul de plus de 20 ans. Et finalement, nous, on a réussi, à la différence des Québécois, d'intégrer la justice restaurative dans la loi, alors qu'eux ne l'ont pas et nous l'envient un petit peu.
Je me suis dit, il faut que je me rende au Québec, voir concrètement comment ça se passe et surtout rencontrer les personnes qui sont concernées. Donc, tout ça, ça s'est réalisé, voilà.
On part à un tout petit nombre sur toute l'équipe départementale. On doit faire un retour à l'équipe, on fait une réunion. Et là, en fait, les collègues marquent pas un enthousiasme débordant sur le projet, voire même marquent pour certains des très, 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 très grosses réticences, voire même, moi, on me dit que... Je crois qu'on utilise des termes du genre... de torture et d'expériences pas interdites, mais enfin voilà, en gros, mais des choses assez abjectes. Hein, en fait, je pense que tout le monde a peur de blesser les gens. On a peur de refaire du mal aux victimes.
Il y a de quoi, puisqu'en fait, on revient sur les faits et on reprovoque une émotion qui peut être violente.
Ah, mais tout à fait. Et du coup, voilà, on pense que nous, on va aller re-blesser les victimes. Et des collègues qui disent, mais à un moment, faut pas non plus torturer les détenus, quoi. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils réfléchissent, mais on n'est pas là pour les torturer, c'est de la torture ce que vous faites.
On sentait que c'était un sujet susceptible de faire polémique, et il fallait pas que la polémique empêche du coup le projet de se faire.
Alors nous, on est revenus tout heureux de l'expérience canadienne où on voit ces gens, on les a rencontrés. Et on n'a pas vraiment eu l'impression d'avoir rencontré des gens qui avaient été torturés. On a plutôt rencontré des gens qui étaient volontaires, qui avaient envie, qui sont sortis de là mieux.
Et au retour, j'ai revu la directrice de l'INAVEM, Sabrina Bellucci, pour lui faire part de mes impressions et puis du projet que j'aimerais bien mener avec l'INAVEM.
Je me souviendrai toujours des premiers temps avec Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux de l'époque, qui était en questionnement elle aussi sur ces modalités-là et qui au final a été celle qui a introduit la justice restaurative de façon législative. Mais elle aussi, elle s'est laissée convaincre.
L'écueil à éviter, c'était de présenter quelque chose qui pouvait paraître un
laissez
peu angélique.
Laissez faire, mais quand même observer. Regardez.
Un peu naïf, un peu en dehors de la culture professionnelle du moment. Et ça, on était convaincus qu'on n'était pas du tout dans du naïf et de l'angélique, hein, parce que c'est très concret, c'est très efficace, c'est très... C'est pas de l'ordre de la secte, hein, c'est des rencontres, c'est le travail de la parole que connaissent d'ailleurs tous les thérapeutes dans le milieu médical, ils savent l'efficacité. Simplement, là, c'était, j'allais dire, la parole appliquée à la criminologie, appliquée à la réparation des victimes. Bon, ça, c'était quelque chose de nouveau dans notre pays.
Ça nous évoque immédiatement de l'intérêt, de la curiosité et de la peur. De la peur, car nous voyons bien que dans ces modalités-là, la victime a une place à part entière et très active. Donc nous avons la crainte, en tant qu'association et en tant que professionnel de l'aide aux victimes, de réactiver des souffrances, des craintes chez les victimes, en leur demandant de participer aux rencontres. Mais aussi un intérêt réel et immédiat, puisque nous nous rendons compte que ces rencontres permettent de prendre en considération les conséquences de l'acte, et surtout de répondre ou de tenter de répondre à des questionnements qui n'ont jamais eu de réponse. On avait vraiment l'impression de parler presque du même public, d'un public qui n'était pas sorti indemne, ni de la commission de l'acte, ni du fait de l'avoir subi, et qui continue de l'être alors que, d'une part, une peine est prononcée et une incarcération est en cours, et que, d'autre part, le procès pénal a rendu une justice. On joue un jeu. C'est un jeu, un procès pénal. C'est une mise en scène. Il y a la partie civile, l'auteur, le mis en cause, et chacun joue sa part pour que l'auteur, d'une part, ait une peine la plus faible possible, logique, et la victime aussi, parce que elle est un peu terrorisée par cet aspect un peu théâtral des choses et qu'elle ne sera pas dans cette authenticité qu'elle souhaite. Les victimes nous le disent, je n'ai pas pu tout dire. Et les auteurs le disent, je n'ai pas pu tout exprimer. Ou ce que j'ai exprimé, j'ai dû l'exprimer d'une certaine manière. Cet outil de la rencontre entre détenus et victimes permettait justement cette libéralisation de la parole, l'expression d'une souffrance qui n'avait pas pu être exprimée au moment du procès.
En fait, on s'est posé tellement de questions, on avait tellement peur de plein de choses, et puis on avait peur de se planter. Alors, je pense que tout le monde a un peu cette peur-là. Hein. Au niveau de l'équipe de l'INAVEM qui nous accompagne, notamment Madame Bellucci, bien évidemment, quand elle se pose des questions de comment on va faire pour les faire rentrer, comment ça va se passer, comment elles vont le vivre. En fait, on fait rentrer des victimes en prison. Elles n'ont rien à faire en prison, les victimes. Elles sont victimes. Elles ne rentrent pas dans une prison. Elles sont dehors, justement, elles. Et c'est les auteurs qui sont dedans. Donc, c'est, à la base, elles n'ont rien à y faire. Mais là, pour l'expérience, bah, il s'avère qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire sortir les détenus. Comme ça pour l'expérience. Bon, bah donc il faut qu'elle rentre. Stéphanie Prévier, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation depuis 2007. Voilà. On vient vous proposer ça. C'est un dispositif expérimental. C'est pas une aide à l'aménagement de peine. Ça apparaîtra pas dans votre dossier pénal. Le juge d'application des peines ne sera pas informé du fait que vous faites partie de ce groupe. On est dans l'ordre du cheminement personnel. Donc, il n'y a pas de rétribution à attendre. Pas de remise de peine supplémentaire. Pas d'avis favorable à un moment ou un autre de l'administration pénitentiaire ou du SPIP sur votre projet. Pas de communication au juge. C'est pas fait pour ça. Et les victimes savent que ça fait partie du cahier des charges. Il n'y a pas de récompense. Et si, de toute façon, on introduit une quelconque forme de récompense, il n'y a plus de dispositif. Voilà. On explique aussi qu'il faut un respect total de la confidentialité, parce qu'ils ne seront pas le seul détenu, il y aura d'autres personnes détenues avec eux. Donc ça veut dire, dans un établissement pour longue peine, des gens qui croisent tous les jours et qui vont recroiser. Et le gros souci de la vie en détention, c'est les autres détenus. Les pressions, ça existe, les chantages, dire à l'autre « je vais balancer », machin. Bien sûr que c'est la vie de la détention.
Et puis il y a des peines qui sont mieux acceptées que d'autres.
Hein. Voilà, il y a des peines qui sont mieux acceptées que d'autres. Bon, la plupart du temps, ils savent déjà ce pourquoi les gens sont là, parce que tout le monde sait, en fait, hein, les choses se disent, se savent. Mais voilà, donc c'est tout ça. Et puis, chose qui est aussi primordiale dans le dispositif, c'est que l'administration pénitentiaire n'est pas présente. Du coup, quand la rencontre détenue victime a lieu, on a trois victimes, deux représentants de la communauté, deux animateurs qui sont des gens de l'extérieur. Mais on préserve leur intimité, on n'écoute pas... Elle ne connaît pas leur nom, enfin voilà quoi. Est-ce que ça vous irait ? Est-ce que vous voudriez tenter l'expérience ?
D'entendre l'expression de la violence chez l'auteur, d'entendre la manière dont il a agi, la manière dont il aurait voulu ne pas agir, ça fait résonance dans ma propre histoire, d'avoir une forme d'apaisement par rapport à ma propre histoire, d'apaisement général par rapport aux auteurs de crimes en général. Si ces criminels ont pu faire cette démarche, ont pu avoir cette prise de conscience, ont pu avoir cette forme de responsabilité, de conscientisation de leur acte, alors ça peut avoir une résonance sur les autres. Et, alors là, c'est pas ricochet, donc une forme de sécurité pour moi-même et pour la société.
Nous sommes donné rendez-vous le samedi précédent, le lundi, pour leur faire visiter la centrale de Poissy. Donc nous sommes retrouvés le samedi matin pour, d'une part, les victimes se familiarisent car elles n'étaient jamais rentrées en détention. Donc pour montrer ce que c'était un sas de sécurité, de comment ça allait se passer, de donner sa pièce d'identité, que les portes allaient se refermer, qu'elle devait laisser...
Le cheminement psychologique de l'infracteur, les circonstances de l'acte, la mise en route, les liens qui se font entre une chose qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Tout ça, les victimes n'ont pas ces choses-là. Et elles ont encore des questions... Comment ça s'est passé à ce moment-là, avec aussi une espèce de fantasme hein, d'essayer de rejouer le film. Ma fille a-t-elle souffert ? Est-ce qu'elle a imaginé des choses ? Est-ce qu'elle a pu voir le regard de l'auteur ? Est-ce que vous, auteur, vous avez regardé mon enfant dans les yeux quand vous étiez en train de l'étrangler ? Tout ça, ça ne se dit pas au procès. En revanche, dans une rencontre détenue-victime, ça pourra se dire.
Chaque semaine, ces victimes se retrouvent avec les détenus, donc pour une rencontre le lundi après-midi, ceci sur 5 semaines. Ce sont des personnes qui, pour la première session, étaient des victimes indirectes. Ce qu'on appelle victimes indirectes, ce sont des personnes qui n'ont pas elles-mêmes subi, mais subi l'acte criminel. Et c'était notamment deux mamans dont les filles ont été assassinées et une personne dont la nièce avait été violée. Et ces personnes victimes, c'est trois dames d'un certain âge, avec un enthousiasme et une appréhension différentes. Et cette peur qui a habité les victimes lors de cette rencontre autour de 15h ce lundi après-midi où ces mondes allaient se confronter et se rencontrer.
Donc je participais à ces rencontres en tant que victime, considérée comme victime, puisque ma fille Delphine a été assassinée en 1988.
Marie-Josée Boulay. Hein,
je voulais ces rencontres, mais il ne fallait pas qu'il y ait un engagement trop personnel, puisque ça devait rester d'une manière quelque chose de clos dans une bulle fermée. Une fois la fin de ces rencontres, c'était terminé, point. On ne se rencontrait plus. On ne savait pas vraiment qui étaient les détenus. Ils ne savaient pas qui vraiment nous étions. C'était aller voir un peu de l'autre côté ce qui pouvait s'y passer. Et finalement, ça a été beaucoup plus simple. Et tout s'est passé lors de la première rencontre. Nous, les victimes, nous sommes entrées dans la salle qui était prévue pour nous. Et nous faisions bloc d'un côté de la table, encadrés par les animateurs et les représentants de la société civile. Et de manière à faire bloc, puisque tout le monde était tendu, même ceux qui n'étaient pas vraiment pas aussi partie prenante que nous. Et finalement, les détenus sont entrés dans la salle. Et là, c'était trois jeunes hommes qui rentraient dans la salle, qui étaient aussi, au début, visage assez fermé, tendu, aussi tendu que nous, aussi inquiet. Et l'un d'eux a sans doute pris son courage à deux mains. Et en souriant, est venu vers nous et nous a tendu la main et on a serré les mains. Et vous savez, quand on est dans un dossier, il y a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et j'allais chercher ces réponses un peu par comparaison, puisque évidemment c'était des questions assez précises sur le comportement du meurtrier, des choses comme ça. Et là, j'ai posé des questions très précises. D'ailleurs, ça a été, c'était douloureux pour eux parce qu'on les mettait face à leur acte et on insistait. Mais là, quand... et là, quand j'aurais posé des questions, j'ai compris qu'il y a des questions qui étaient même sans réponse pour eux et que c'était plus la peine que je me torture avec ces questions-là et qu'elles resteraient à jamais sans réponse puisque eux-mêmes n'avaient pas la réponse. Et c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs. Ils m'ont dit, ça ne sert à rien. Nous-mêmes, on ne sait pas. Donc c'était accepter qu'il y avait des choses qui resteraient à jamais sans réponse. On ne peut pas tout expliquer.
J'ai tout de suite rencontré la thérapeute côté victime. Qui gérait les trois victimes que nous étions pour voir si j'étais effectivement capable d'assumer ces séances ou pas, dans quel état psychologique je me trouvais, parce que c'est quand même des rencontres assez difficiles, donc tout le monde ne peut pas y participer. Si on est encore fragilisé par son passé, je pense que ça nous détruit plus qu'autre chose.
Vous avez quel âge, Julie, aujourd'hui ?
27 ans.
Il y avait une thématique particulière ?
La thématique, c'était le viol. La thématique, c'était le viol, mais après, il n'y avait pas... Moi, j'étais la seule à avoir eu mon histoire. Après, il y a avait une femme qui avait été abusée et séquestrée par plusieurs hommes pendant plusieurs jours. Et une autre qui s'était faite agresser sauvagement dans la rue, en rentrant de soirée. Et en face de nous, on avait des hommes. Un homme qui avait abusé d'un petit garçon, un autre qui avait abusé de sa fille, et un autre qui avait violé une femme dans la rue, comme ça.
Et alors, votre histoire, c'est qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a donné envie de participer à des rencontres condamnées victimes ?
Beaucoup de maltraitance, tant physique que verbale, d'humiliation et des abus sexuels.
Quand vous étiez petite, c'est ça ?
Ouais.
De la part de quelqu'un de votre famille ?
De membres de ma famille, ouais, tout à fait.
Et du coup, comment on se construit alors avec tout ça ?
Sur le coup, on ne se construit pas. On apprend à survivre déjà, parce que c'est une bonne chose. Enfin, au début, c'était le début de ma vie, moi, a commencé quand ma première thérapie a commencé à fonctionner. Pour moi, avant, j'ai pas vécu. Donc c'est très compliqué parce que bah, du coup, il faut apprendre beaucoup de choses toute seule et un peu sur le tard. Mais oui, il y avait toujours cette question du pourquoi moi et pourquoi ça a pu se passer comme ça en fait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un papa, d'un frère, de qui que ce soit pour qu'on vous fasse du mal comme ça. Enfin, c'est beaucoup de questions et ces gens-là ont beau avoir fait ce qu'ils ont fait, ils nous aident quand même à trouver des réponses et à nous permettre de nous dire ok, je comprends. C'est pas pour autant que je vais pardonner, mais je peux mieux comprendre ce qui s'est passé. Et comme je le comprends et que je sais exactement ce que la personne avait dans la tête, bah du coup, je suis capable de dire, mais moi, j'ai jamais eu ça dans la tête, donc je sais que je le ferai jamais à mes enfants. Et c'est super important, en fait. Et donc, ce papa, en l'occurrence, moi, c'est lui avec lequel j'ai le plus échangé, m'a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu cette attitude-là envers sa fille. Et lui, de son côté, par moi, il a pu comprendre pourquoi est-ce que sa fille le rejetait autant, ce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi sa fille n'acceptait pas son pardon. Et du coup, il y a eu un véritable échange. En tout cas, à la fin, je sais qu'il avait compris qu'il devait la laisser tranquille et que c'était elle, un jour, qui, avec le recul, en grandissant, comprendrait effectivement qu'il était sincère au moment donné où il lui a demandé pardon, qu'elle ne l'a pas accepté, mais qu'elle l'acceptera plus tard. Et puis, bah, lui, il doit juste attendre. Et moi, de mon côté, j'ai pu comprendre ce qu'il avait en tête. Pour lui, il couchait avec sa fille parce qu'il l'aimait et qu'il ne comprenait pas qu'un amour puisse s'exprimer autrement. Et en fait, à force de creuser, on se rend compte que bah, ce monsieur-là, en fait, aussi a été abusé, puisque au tout début de sa vie, quand il a rencontré sa femme, il devait coucher avec la mère de sa femme pour avoir le droit d'approcher sa femme. Il avait 14 ou 15 ans à l'époque. Donc, pour lui, en fait, tout se passait par le sexe. Et c'était le cours normal des choses, en fait. Mais ça m'a rassurée.
Et vous, Julie, après un travail comme celui-là, vous avez vous-même, vous vous êtes dit, je vais pardonner, je vais reprendre contact?
Non, ça non, par contre. Non, j'avais besoin de réponse à mes questions. Entre comprendre et pardonner, il y a quand même une très très grande frontière que je ne passerai pas. Puisque voilà, moi, pendant ma première thérapie, j'ai essayé de faire comprendre à ces gens-là qu'ils me faisaient du mal. Pour autant, ils ont toujours nié.
Pourquoi vous dites ces gens-là, ils étaient plusieurs à vous faire du mal?
Ouais.
On ne vous a pas protégé du tout?
Non, pas du tout, non. On m'a fait du mal par des hommes, mais ce sont des femmes qui étaient proches de moi qui ne m'ont pas protégée. Je me suis protégée moi-même en m'enfermant dans une sorte de bulle. Où je me suis interdite d'avoir mal et de ressentir plus aucune émotion pour pouvoir me protéger, pour pouvoir survivre en fait. Donc je me suis mise à ne plus avoir mal, à ne plus pleurer, à ne plus ressentir de peine, de joie, de rire, de larmes. J'ai pas pleuré, je crois, pendant peut-être 15 ans. Et même quand on me tapait, je ne ressentais pas la douleur. Et c'est avec ma thérapie où j'ai réussi à beaucoup me débloquer, où je me suis remise à pleurer, à ressentir que j'avais mal, à ressentir que là j'étais heureuse, que là je pouvais rire, que là je pouvais faire confiance, que là je pouvais aimer.
Comment s'est passée la première séance quand vous êtes arrivée?
Horrible. Particulièrement horrible, parce que bah, la première fois qu'on rencontre les auteurs, on doit raconter notre histoire, et les auteurs doivent faire pareil. Et dès que j'ai entendu la première histoire, je me suis effondrée en larmes en me disant mais c'est tellement horrible ce qu'ils ont fait que je ne peux pas rester en fait. Je suis rentrée, je ne savais pas trop bien si j'allais bien, si j'étais contente d'être là, si je ne m'étais pas encore plus détruite moi-même du coup à y aller. Je ne savais pas trop, donc j'ai fait la deuxième séance en me disant on verra, au pire j'arrêterai. Et puis finalement de la deuxième séance, il y a des choses qui se sont débloquées, on met à comprendre pourquoi on est là, vraiment. Pendant des années, j'en ai fait des cauchemars, ou des insomnies, à plus dormir la nuit, à pas avoir d'appétit, à avoir ne serait-ce que peur qu'un homme vienne me dire bonjour, une main sur l'épaule pour faire la vie, c'était quelque chose que je détestais. Et aujourd'hui, bah, Moi, non, j'ai plus peur de tout ça.
C'est vrai que c'est quelque chose qui touche. On ne peut pas être humain tout seul. On est humain parce qu'on est en réseau et qu'être humain, c'est être simple, c'est être en réseau. Et que vous pouvez vraiment faire l'épreuve de l'empathie lors de ces moments-là. Ça ne veut pas dire « je sens ce que tu sens », mais se voir à travers... les yeux de l'autre parce qu'on a été capable de l'écouter, je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que je sais que au moment où j'ai fait ce que j'ai fait, j'étais pas humain, j'étais plus humain. Donc ouais, je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Souvent, on est obligé de dire ce qu'on a vécu pour pouvoir le croire. À dire, le livre Les Anormaux, j'en ai entendu parler à l'époque où j'écoutais Les Chemins de la Connaissance. Et en fin de compte, c'était une semaine où c'était Jacques Derrida, je crois, qui parlait. Et j'avais un livre de Vladimir Yankelevitch et il disait qu'il pratiquait le non-pardon par rapport aux Allemands. Et... quand Derrida parlait du pardon comme si c'était une sorte de fiction, comme si c'était quelque chose, pas de fiction, mais un non-sens, parce que c'est les personnes qui n'ont pas été affectées, qui vont pardonner, qu'est-ce que ça peut vraiment vouloir dire? C'est comme si le mot pardon était un mot qui était collé sur quelque chose qui n'existe pas. Et ça m'a beaucoup perturbé à l'époque. Parce que même je crois encore même que ça me perturbe. Parce que en fin de compte, je me suis demandé si on pouvait demander pardon et si pardon s'existait. Mais je vais être franc avec vous, là où j'ai toujours pas de réponse. J'ai vraiment un gros doute sur le fait que ça puisse exister. Et ça m'a... ça m'a troublé et j'ai vraiment la sensation que je sais pas si ça existe. Pour le pardon, le mal qui a été fait, il est irréparable. Donc, j'ai détruit trop de gens, ça fait trop de mal, ça... C'est-à-dire que le pardon n'existait pas, mais que le non-pardon puisse par exemple exister, ça m'a fait étrange. Mais je pense que c'est par rapport à moi et la façon dont je gère, parce que je pense que tous les gens qui ont écouté cette émission n'ont pas été perturbés par son contenu. Mais après, c'est difficile. Malheureusement, on ne peut pas changer le passé. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer.
C'était la série documentaire « Une histoire de la justice restaurative » avec François Goetz, Sabrina Bellucci, Michel de Kerckhoff, Stéphanie Prévier, Catherine Rossi, Sandrine Lefranc, Robert Cario, Marie-Josée Boulet, Pierre, Julie et Olivia Mons. Merci à Lina pour les archives, merci à l'administration pénitentiaire, à toute l'équipe de la centrale de Poissy, à l'IFJR, France Victime, Isée Productions et Laurent Benahim. Prise de son Jean-Marie Porchet, mixage Éric Boisset, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez rendre justice, bibliographie, lien, nous podcaster pour le tribunal ou nous réécouter en prison, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, deuxième épisode, réparer ce qui reste. Et pendant 2 semaines, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, le film de Claudine Bory, Monsieur contre Madame. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.